VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Eric Manirakiza, en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Ravi d'être avec vous et bienvenue dans cette édition de 17h30 temps universel. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui du vendredi 15 septembre 2017. Voici d'abord le sommaire. Au Tchad, le ministre de la Justice et garde des Sceaux en charge des droits humains répond à Amnesty International.
Franchement, le rapport n'allait pas être de ce contenu si on avait échangé avec Amnesty avant la rédaction même de ce rapport.
Le ministre Mahama Hassan. Au Togo, la commission des lois de l'Assemblée nationale examine le projet de réforme constitutionnelle. L'opposition exige la limitation des mandats présidentiels. Génocide des Rwandais. Le Conseil constitutionnel français maintient le refus à un chercheur de consulter les archives sur le Rwanda. Kim Jong-un continue à défier l'ONU. Pyongyang a tiré un deuxième missile balistique en moins d'un mois. Retrouvez Yakuba Ouedraou, Nicolas Pino pour votre page des sports et Jacques Aristide qui décortique l'actualité économique de ce soir, juste après le journal. RCA, un député d'Omria, a alerté sur un risque de famine dans la localité. Les affrontements armés dans cette ville du centre-est ont provoqué la pénurie des denrées alimentaires. Freeman Sipila.
Ce sont plus de 40 000 personnes qui sont menacées par la famine à Bria. Les récurrents affrontements entre groupes armés n'ont pas permis le ravitaillement de la ville en produits de première nécessité. Les habitants, eux aussi, craignant pour leur vie, n'osent pas se rendre au champ. Pour Arsène Kongo, député de Bria, si rien n'est fait d'ici fin septembre, la ville va être complètement plongée dans l'insécurité alimentaire.
Tous les véhicules qui quittent Bangui pour Bria ne s'arrêtent qu'à Bambari. Et les produits de première nécessité manquent. Par exemple, le savon, le sel, le sucre. En plus de cela, une boîte de sardines que nous achetons ici à Bangui à 350 francs coûte 2000 francs. Il faudrait que le gouvernement pense très rapidement à envoyer les vivres au niveau de Bria. Si ça ne se fait pas, je crois que arrivé en fin septembre, vous allez comprendre que à Bria, les gens vont commencer à mourir à cause de la famine.
Alors que la situation sécuritaire reste volatile à Bria, où des groupes armés se regardent en chien de faïence, le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement s'est tenu ce vendredi à Bangui. Le président Faustin Archange Touadéra a inscrit dans les priorités de cette nouvelle équipe la pacification du pays. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La coalition d'ONG Côte Bleue accuse la mission de l'ONU en Centrafrique de simulacre d'enquête dans des affaires d'abus sexuels attribués à des casquets bleus, détaillant le cas d'une femme. Côte Bleue déclare qu'aucun accusé n'a été condamné et que 8 victimes n'ont pas été interrogées par les enquêteurs. La MINUSCA dit avoir pris des mesures strictes pour lutter contre ce problème et reconnaît également que l'exploitation sexuelle et les cas d'abus sexuels ont sévèrement affecté la crédibilité et la réputation de la mission par le passé. Le porte-parole Vladimir Monteiro a indiqué que la mission va examiner ces allégations de code bleu. Le pape François ne se rendra pas à Kinshasa avant la tenue d'élections. Le nonce apostolique en RDC a dit hier que le Vatican veut éviter tout risque de manipulation et a dénoncé un état prédateur de son peuple. Génocide rwandais, le Conseil constitutionnel français a jugé conforme une loi limitant l'accès aux archives des anciens présidents, Premier ministre et ministre. Cette décision vise surtout un chercheur voulant consulter les archives de l'Élysée sur le Rwanda. Le point avec Morgane Guiriec.
Le requérant, le chercheur François Granet, auteur d'ouvrages sur le Rwanda, qui s'était vu refuser la consultation d'archives de la présidence française, reprochait à un article du Code du patrimoine de méconnaître plusieurs droits constitutionnels. Cet article accorde aux ex-membres de l'exécutif ou à leurs mandataires, dans les 25 années suivant leur décès, de garder une maîtrise totale sur la divulgation des documents qu'ils ont versés aux archives, et ce, sans aucun recours possible. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées sont justifiées par un motif d'intérêt général et qu'elles ne portent pas atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication. Le 7 avril 2015, la présidence française avait annoncé la déclassification de ses archives sur le Rwanda pour la période allant de 90 à 95. Un geste fort à l'occasion du 21e anniversaire du déclenchement du génocide rwandais le 7 avril 1994.
Morgan Guiriec, la Grande-Bretagne fustige le harcèlement et l'arrestation des personnalités de l'opposition au Rwanda après la dernière présidentielle remportée haut la main par Paul Kagame. L'ambassadeur britannique à Kigali s'est dit inquiété. Au Togo, la commission des lois de l'Assemblée nationale a commencé aujourd'hui à examiner le projet de réforme constitutionnelle. La nouvelle version est censée introduire la limitation des mandats présidentiels tels que revendiqués par l'opposition. Les précisions avec Dili Diko.
Les travaux de la commission, composée de 9 députés, ont débuté ce matin à huis clos selon l'AFP. Les débats sont aussi ouverts aux autres députés non membres de la commission des lois. Les représentants du peuple étaient nombreux à avoir fait le déplacement, parmi eux le leader de l'opposition Jean-Pierre Fabre et 3 ministres. La commission devra ensuite remettre un rapport avant que l'ensemble des députés puissent examiner le texte en séance plénière. La semaine dernière, le gouvernement a adopté un avant-projet de loi pour répondre aux principales revendications de l'opposition. Ce texte propose un scrutin uninominal, majoritaire à 2 tours et une limitation des mandats. Le président sera élu pour un mandat renouvelable une fois. L'opposition dénonce cependant une tactique de diversion de la part du régime. L'avant-projet de loi n'étant pas rétroactif, le président fort Gnassingbé, qui en est à son 3e mandat, pourra se représenter aux 2 prochains scrutins. De nouvelles mobilisations sont prévues les 20 et 21 septembre pour réclamer le départ du chef de l'État.
Au Niger, un nouveau bilan de l'ONU indique qu'au moins 50 personnes sont mortes après des inondations provoquées par des pluies torrentielles qui s'abattent depuis juin sur ce pays désertique. Au Nigeria, plusieurs gouverneurs ont lancé des appels au calme à la suite des affrontements entre partisans de l'indépendance du Biafra et forces de sécurité. Craignant que ces tensions ne prennent une dimension interethnique, le gouverneur Simon Langlong a déploré des violences évitables et totalement inutiles. Toujours au Nigeria, la milice qui lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram, aux côtés de l'armée dans le nord Est dit renoncer à ne plus recruter ni utiliser d'enfants. D'après l'ONU, la Civilian Joint Task Force a utilisé 228 enfants, dont certains d'au moins de 9 ans.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Condamnation dans le monde à la suite du nouveau tir de missile balistique de la Corée du Nord. Il a atteint une distance inédite en survolant le Japon. Il y a 5 jours, l'ONU a adopté une 8e série de sanctions internationales. N'est-ce pas, Nathalie Barche?
Tout en condamnant le tir de Pyongyang, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé la tenue de discussions sur la crise à New York la semaine prochaine, tandis que le Conseil de sécurité a convoqué une réunion d'urgence cet après-midi. La Chine s'oppose à la violation par la Corée du Nord des résolutions du Conseil de sécurité et à son recours à la technologie de missiles balistiques pour des tirs, a déclaré la porte-parole des affaires étrangères chinoises, Hua Chunying, tout en estimant que les parties en présence devaient faire preuve de retenue. Moscou a également réagi. Nous condamnons fermement la poursuite de ces actes provocateurs qui mènent à une escalade des tensions, a souligné le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Les présidents russes et français Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont appelé à des négociations directes avec la Corée du Nord. Lors d'un entretien téléphonique, ils se sont montrés unis concernant le caractère inadmissible d'une poursuite de l'escalade, explique le Kremlin. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a appelé Pyongyang à cesser ses provocations imprudentes et à abandonner ses programmes d'armes nucléaires, tout en menaçant de nouvelles sanctions européennes.
Nathalie Barge, un attentat dans une station du métro londonien a fait 22 blessés. Un engin explosif artisanal a provoqué une énorme détonation et une boule de feu près de la station de métro de Parson Green dans le sud-ouest de Londres. Cet attentat n'a pas été revendiqué pour le moment. C'est le cinquième en six mois au Royaume-Uni. Le groupe État islamique a revendiqué cette vague d'attaques. La réaction intempestive du président américain Donald Trump a provoqué la colère de Theresa May, un nouvel accroc dans la relation spéciale entre Londres et Washington. Monsieur Trump a décoché une flèche à la police britannique en lui reprochant de manque d'anticipation. La réponse de la dirigeante britannique a été cinglante. Je pense qu'il n'est d'aucune aide pour quelqu'un de spéculer sur une enquête en cours, a-t-elle dit. En France, l'opération militaire Sentinelle a une nouvelle fois été la cible d'une attaque. Un homme armé d'un couteau a agressé un soldat en plein centre-ville de Paris sans faire de blessés. Ce dispositif sécuritaire a été mis en place après les attentats de janvier 2015. Le président français Emmanuel Macron a promulgué deux lois de moralisation de la vie politique. Le texte interdit notamment les emplois familiaux de collaborateurs. Ce sujet a surgi avec force durant la campagne présidentielle et a coûté cher au candidat de la droite donné favori François Fillon. Monsieur Macron a signé les documents sur son bureau à l'Élysée en direct à la télévision, une mise en scène à l'américaine inédite en France. Le parti radical italien a déposé une plainte au parquet de Rome contre des soupçons d'accord entre l'Italie, des responsables libyens et des chefs de milices impliqués dans le trafic de migrants. Cet accord vise à stopper les migrants. La Commission européenne a proposé une réforme des règles de financement des partis politiques européens et vise à renforcer leur légitimité démocratique et à sanctionner plus efficacement les abus. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, la chronique de la Muniteco signée Jacques Aristide.
La plupart des pays en développement, dont en Afrique, ont évité l'austérité entre 2011 et 2015, contrairement aux pays riches, mais font face désormais à de sérieux risques de dégradation de leur situation, d'après le rapport 2017 de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Plusieurs facteurs sont avancés, une hausse de l'endettement, une instabilité politique, la chute des prix de produits de base et l'appréciation du dollar notamment. Cette agence onusienne conclut que l'économie mondiale, qui peine à décoller, a besoin d'un nouveau plan Marshall qui devrait s'inspirer de celui de 1947. Le cacao s'est inscrit en légère hausse sur les marchés internationaux ce vendredi. Après une récolte particulièrement abondante, les prix avaient plongé en octobre dernier et peinent désormais à trouver une direction forte. La récolte de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, est particulièrement observée. Elle s'annonce à nouveau élevée, mais moins que l'année précédente. Au Kenya, les recettes de l'État depuis juillet ont diminué de 29 milliards de shillings, soit 282 millions de dollars. Les investisseurs reportent leurs projets en raison de l'incertitude quant à la nouvelle présidentielle fixée au 17 octobre. Le gouvernement a réduit ses dépenses non essentielles, comme les voyages à l'étranger, pour financer ce scrutin.
Et nous passons directement au sport. C'est avec vous, Nicolas Pinault. Bonsoir.
Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous.
On commence avec de l'Afro-basket masculin 2017 à Tunis. On joue les demi-finales.
En effet, le Maroc affrontera la Tunisie, le pays organisateur, et le choc de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal-Nigeria. Le tenant du titre qui a dominé le Cameroun, sans surprise, 106 à 91 hier. Le Sénégal lui a réussi à se débarrasser de l'Angola, 66 à 57.
Et en football, les quarts de finale de la Ligue africaine des champions, Nico.
Au Mozambique, le Ferroviaro de Beira accueille l'USM Alger qui a démarré timidement le championnat algérien. À Alexandrie, dans une ambiance de feu, Al Ahly qui reçoit l'Espérance sportive de Tunis. Dans le troisième quart de finale à Pretoria, le champion en titre, les Mamelodi Sundowns, auront fort à faire contre le Wydad de Casablanca. Enfin, à Alexandrie, Al Ahly de Tripoli contre l'Étoile sportive du Sahel.
Et la Coupe de la Confédération reprend dès ce soir, Nicolas.
Oui, le Supersport United accueille dès ce soir le ZESCO de Zambie, demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions. Mazembe, champion 2016, se déplace au Soudan chez Al Hilal El Obeid. Et puis le choc à Rabat entre le FUS et le club sportif sfaxien. Et au stade du 5 juillet à Alger, le Mouloudia Club accueille les Tunisiens du club africain.
Et avant de nous quitter, Kolo Touré face à un nouveau challenge.
Et oui, après une dernière saison en Écosse au Celtic, l'Ivoirien, déjà entraîneur adjoint de l'équipe olympique de Côte d'Ivoire, vient d'être nommé assistant technique du Celtic de Glasgow.
Justement, le Celtic Glasgow qui est en difficulté en Ligue des Champions, Nico, il a perdu 5-0 contre le Paris Saint-Germain. Merci Nicolas pour toutes ces précisions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manilakiza. Deuxième partie de cette édition, les dossiers du jour. Peut-être une nouvelle voie pour la sortie de crise au Mali. Des organisations islamiques du pays ont lancé un appel au dialogue avec les djihadistes. Initiative de Mahamoud Diko, responsable du Haut Conseil islamique du Mali, qui a été mandaté pour négocier directement avec les groupes armés non signataires des accords de paix. C'est une charge très lourde, a reconnu Mahamoud Diko. Il répond aux questions de Bagassi Koura.
Je l'ai appris avec beaucoup de bonheur. Je sais aussi que c'est une charge redoutable, mais c'est un devoir citoyen pour moi, c'est un devoir aussi religieux de chercher vraiment à ce que la paix, la quiétude. C'est pour cela je sais que c'est une charge très lourde, mais je ne peux pas me dérober. Je vais m'y mettre et je ferai tout ce qui est vraiment dans mon possible pour que ça soit une réalité, pour que vraiment notre pays qui n'a c'est vraiment qui a vécu une souffrance qui n'a que trop duré, trouver une solution à cela. Et je ne peux pas prétendre le réussir seul. C'est ensemble, tous les enfants de ce pays, toutes les confessions religieuses réunies, hein, ensemble que nous puissions vraiment réussir ce challenge qui est vraiment de restaurer la paix et la quiétude dans notre pays.
Alors, vous allez négocier avec ces groupes non signataires de l'accord de paix, mais certains les appellent des groupes terroristes. Qu'est-ce que vous dites?
Ben moi, je ne sais pas. Certains, ça, c'est certains qui les appellent. Moi, je suis seulement commis pour essayer de parler avec tous les enfants du pays qui se reconnaissent dans la République. Maintenant, les gens peuvent avoir d'autres points de vue ou d'autres divergences, mais tant qu'ils acceptent vraiment le principe républicain de notre pays et que nous puissions parler pour avoir la paix, moi je pense qu'il faut parler avec eux.
Si on est arrivé là, c'est aussi peut-être le signe que cette crise ne peut pas être réglée seulement sur le plan militaire.
Mais aucune crise, aucun conflit n'a pu être réglé seulement que sur le plan militaire. Aucun. Dites-moi, dans l'histoire, quel est le conflit qui a pu vraiment se résoudre seulement sur le plan militaire? Il faut nécessairement prendre compte des autres, disons, réalités de cette crise. C'est vrai qu'elle a une dimension spirituelle. Donc, cette dimension-là, il faut l'intégrer et voir pourquoi les uns et les autres revendiquent de cette façon.
Alors, vous savez que les positions sur cette question du terrorisme sont très tranchées. Hein? À Bamako, certains disent qu'il ne faut jamais négocier avec Yag Gali. Comment vous comptez les convaincre?
Moi, on m'a jamais dit de négocier avec Iyad ni quelqu'un d'autre. On m'a dit simplement de négocier avec les enfants de ce pays qui se reconnaissent dans la République. On ne m'a jamais dit spécifiquement qu'il faut aller négocier avec Iyad. Personne ne m'a demandé ça.
Si vous avez l'occasion de discuter avec lui, vous allez le faire?
Si je ne le ferai pas de moi-même. C'est l'État malien qui m'a commis, donc moi je me limite à ce qui m'a été dit. Si une négociation doit être faite, c'est l'État qui décide de cela, ce n'est pas moi.
Mahamoud Diko à Bamako.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Suite au remaniement ministériel en Centrafrique, la FDH a publié aujourd'hui un communiqué affichant ses inquiétudes quant à la nomination de 5 ministres appartenant aux ex-Séléka et anti-Balaka, des mouvements accusés d'être à l'origine de graves violations des droits humains et encore actifs et armés dans certaines régions où ils contrôlent des ressources naturelles. Pour en parler, Nathalie Barge a joint Martha Riggio, coordonnatrice de la FDH en Centrafrique.
Écoutez, nous sommes surpris parce que j'ai reçu les membres d'Amnesty International qui étaient de passage en N'Djamena le mercredi dernier et ils m'avaient remis officiellement leur rapport. Franchement, le rapport n'allait pas être de ce contenu si on avait échangé avec Amnesty avant la rédaction même de ce rapport. Premièrement, le rapport ne souligne pas assez les efforts qui sont développés par le Tchad depuis ces dernières années en matière de consolidation de l'état des droits et de la démocratie dans notre pays. Je trouve sincèrement que c'est pas assis sur des réalités. Il n'avait pas eu vraiment peut-être le temps nécessaire de bien vérifier pour mieux asseoir la crédibilité de leur affirmation.
En tant que citoyen tchadien, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut ouvertement critiquer le gouvernement tchadien aujourd'hui et ne pas être menacé d'une manière ou d'une autre par le pouvoir en place?
Il n'y a pas eu de législation, à ma connaissance, intentionnellement ou une politique planifié de la part des dirigeants du Tchad et de l'État tchadien pour pouvoir réprimer toute forme de contestation ou toute action des activistes des droits de l'homme et autres. Je crois que c'est très injuste.
Le rapport révèle que 65 associations sont interdites de manifester en 2 ans. Plus de 10 sites Internet sont bloqués en 2016 et l'ANS, Agence nationale de sécurité, sévit plus que jamais. Monsieur le ministre, cela ne ressemble pas trop à un pays où il y a la liberté d'expression, non?
La législation dont ils font cas, c'est les arrêtés d'interdiction du ministère de l'Intérieur en matière de manifestation. Et ça, le ministre de la Sécurité publique ou le Tchad a pris ses décisions par rapport à un contexte sécuritaire très difficile. Le droit de manifester est reconnu par la Constitution tchadienne. C'est pas à Amnesty de nous le rappeler. Mais le problème, c'est que nous avons aussi des législations qui existent depuis 1960 quant à la question de l'autorisation préalable. C'est vrai, il y a eu la Conférence nationale souveraine, c'est vrai, il y a eu la Constitution de 1996, mais le problème, c'est que nous avons aussi des législations qui existent depuis 1960. Le ministre n'a fait que conformer à la législation existante qui est toujours en vigueur. Maintenant, est-ce qu'il y a un service dédié pour la sécurité et qui est aussi orienté pour la répression systématique des citoyens ou de toute forme de contestation? Ça, vraiment, on est à un point d'assimiler l'Agence nationale de sécurité, qui est une recommandation de la Conférence nationale souveraine de 1993 à la défunte DDS. Et ça, je trouve que c'est dommage. Et ça, il y a un déficit d'objectivité à ce niveau-là.
Pour terminer, monsieur le ministre, quelles sont les actions qui ont été réalisées ce dernier temps au Tchad, justement, pour favoriser le respect des droits de l'homme?
Nous avons connu beaucoup de progrès. Nous avons revisité notre législation pénale, notamment le code pénal qui vient d'être rendu public, promulgué par le chef de l'État. Nous avons supprimé la peine de mort. Nous avons eu beaucoup d'avancées. Les mécanismes de rapport entre les partis de l'opposition, de l'opposition et les membres de la société civile est aujourd'hui marqué par une approche de dialogue et de concertation permanente. Nous sommes ouverts pour toute forme de critique objective pouvant nous aider à reconnaître nous-mêmes nos limites.
C'est le ministre tchadien de la Justice, Ahma Mahama Hassan, qui rejette le rapport d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme au Tchad, intitulé « Entre répression et récession ». Je vous le disais tout à l'heure, la FIDH s'inquiète de l'entrée de 5 ministres membres des groupes armés ex-Séléka et anti-Balaka, des mouvements accusés d'être à l'origine de graves violations des droits humains encore actifs et armés dans cette région, dans certaines régions où ils contrôlent des ressources naturelles. Nathalie Barge a joint la coordonnatrice de la FDH en Centrafrique, Martha Riggio.
On n'a pas d'inquiétude particulière vis-à-vis les personnalités qui ont été nommées, mais vis-à-vis les mouvements et les milices qu'ils représentent. On croit forcément au dialogue politique, mais il y a vraiment pour nous des lignes rouges. C'est-à-dire, ces lignes rouges sont la lutte contre l'impunité et la justice. Et vu qu'il s'agit des groupes qui ont vraiment, et à la base, de la crise 2013-2014 et qui sont toujours des acteurs principaux des violences qui circulent à la RCA depuis le début de l'année. On s'inquiète de cette ouverture.
Vous rappelez à ce propos le fait de devoir mettre l'accent notamment sur la Cour pénale spéciale à Bangui.
Absolument, absolument. Ça sera un peu l'indicateur de la direction que les gouvernements prend avec aussi ces nominations. Ils doivent aller ensemble avec, d'un côté, des signaux très forts des groupes armés de leur volonté d'épée. Et un indicateur aussi sera, on espère, la baisse des violences dans les prochains mois. Et ça doit s'accompagner à des efforts véritables d'opérationnalisation de la DPS, la Cour pénale spéciale, qui va juger les crimes commis aussi par les groupes qui sont maintenant représentés au gouvernement. Du coup, ça reste la priorité pour nous dans le pays. Il ne peut pas vraiment y avoir la véritable réconciliation en justice.
Vous rappelez également dans votre communiqué l'importance du désarmement en Centrafrique.
Oui, ça reste une première étape des outils transitionnels. C'est un engagement qui vous permet aujourd'hui au gouvernement et ça reste un engagement fondamental en RCA aujourd'hui. La circulation des armes est très importante en RCA aujourd'hui.
En ce qui concerne la nomination de ces ministres, est-ce que vous craignez par là peut-être que la Cour spéciale soit un petit peu entravée justement par toutes ces nominations et qu'elle ne travaille pas, disons, dans la meilleure des intégrités ?
Non, c'est pas une crainte pour nous. La priorité reste vraiment les bons fonctionnements de la CPS. On est encore dans un état où il faut fournir les moyens à la CPS et au procureur spécial pour faire leur travail.
Marta Riggio, coordonnatrice de la FDH en Centrafrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République Centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Au Congo-Brazzaville, les femmes ont réalisé une percée dans les postes électifs. De parmi elles, dirigent pour la première fois des conseils départementaux. C'est le résultat d'une sensibilisation accrue autour d'une loi accordant 30% des places aux femmes sur les listes électorales. À Brazzaville, la correspondance d'Onguela Ngusu.
Avec 17 femmes élues députées, alors qu'elles n'étaient que 12 à la dernière législature, la participation des Congolaises dans le pôle de décision progresse. Marie-Thérèse Bouvet, élue au Sénat, estime que le combat pour les droits politiques de la femme congolaise est loin d'être terminé.
13 déjà c'est bon, parce qu'au départ on n'était que 12, là on vient d'ajouter 2, c'est bon. En tout cas on est assez satisfait. Le combat on l'a toujours mené, hein, le combat d'être représenté partout. On ne peut pas baisser les bras, on continuera à mener le combat.
Deux femmes ont aujourd'hui pris la tête des conseils départementaux dans le pays, chose qui était impossible il y a encore quelques semaines. La ministre de la Promotion de la Femme, Nefer Inès Ingani, fait un constat mitigé.
Ici est de souligner que l'on enregistre une légère progression du nombre de femmes élues tant au Sénat, à l'Assemblée nationale qu'aux différents conseils départementaux et municipaux. Les résultats, bien que positifs dans l'ensemble, montre que de nombreux efforts restent encore à accomplir en vue d'une représentativité équilibrée homme-femme dans les instances de prise de décision, surtout dans le domaine électif, où le Congo occupe jusque-là la 172e place dans le classement mondial de l'Union interparlementaire.
Plutôt optimiste, Didier Clotaire-Boutindi, chef d'une association politique, appelle les femmes à se lever pour leurs droits.
Mais écoutez, mais si la loi donne 30% aux femmes, c'est même les femmes de se lever, de dire que non, nous, on doit respecter quand même la loi. Hein, donc, ils doivent aussi occuper leurs 30%. Donc, il ne faut plus attendre que ce soit les femmes qui ne parlaient pas hier. Il faut que les femmes parlent aujourd'hui. Hein. On a besoin de la voix de la femme. La femme doit parler. Hein. La femme doit prendre des décisions elle-même.
Analysons globalement le problème. Rock Eloge Nzobo, un activiste des droits politiques et civiques, indique que c'est tout le système électoral du pays qui n'avantage pas les femmes.
On ne peut pas régler le problème de la femme tant que, justement, nous n'allons pas sur des bases démocratiques bien définies. Il s'agit des nominations où on décide de qui on peut mettre à telle place. Parce que vous voyez, il y a les forts taux d'abstention. Et moi, je refuse toujours de voir la légitimité, hein, de ces élections. Et il n'y a pas amélioration tant que nous n'allons pas revoir les fondamentaux même des principes de la démocratie, des principes du processus électoral, que ce soit la question de découpage électoral, la question de listes électorales, et la question de la commission indépendante électorale. Toutes ces questions doivent être débattues. À ce moment-là, lorsque nous aurons des résultats, on pourra évaluer de manière objective, de manière concrète.
Avec 246 femmes élues dans les conseils, la participation féminine dans la sphère de décision commence à prendre corps au Congo. Nguela Ngousou, Brazzaville, VO Afrique.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde de Georges Léonard Seigneur et Hightech, oui, Voitech à la console. Présentation, Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous retrouve à 19h30 dans Universel. À tout à l'heure.